Bonjour à tous. C'est toujours un défi quand on se prépare à apporter un message le dimanche, parce qu'on se dit quel est le message que je dois apporter pour nourrir, pour édifier le peuple de Dieu. J'en avais plusieurs à disposition, des messages, et puis au dernier moment, Dieu m'a donné celui-là. Donc je pense que c'est pour nous aujourd'hui, parce que je vais aussi prêcher pour moi. Et on va prier un instant. Merci Seigneur pour ce message que tu m'as mis à cœur pour que je puisse le délivrer avec autorité, avec puissance, avec ton esprit. Seigneur, ce que nous voulons, c'est que ce soit ta parole qui nous touche et qui nous aide, Seigneur, à être transformés de gloire en gloire, comme le dit ta parole, par l'esprit, pour que nous puissions mieux te ressembler. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Alors le titre est peut-être un peu étrange pour vous, l'aujourd'hui de Dieu. Pourquoi l'aujourd'hui? Parce que c'est un terme qui va prendre forme. C'est pas juste quelque chose qui est aujourd'hui, mais c'est l'aujourd'hui de Dieu. Pendant la Covid, je ne sais pas ce que vous avez fait, je plains un peu les gens qui étaient en appartement parce que ce n'était pas évident de rester autant de temps dans un appartement. Nous, on a un grand terrain et tout ça, donc on n'a pas souffert du confinement. Et pendant ce temps-là, eh bien, on a pu, avec ma femme aussi, eh bien, passer beaucoup de temps sans être dérangé, si vous voulez, par le quotidien. Et on a vu un film, La magie du cosmos, je vous invite à le regarder sur Arte. C'est très long parce qu'il y a plusieurs films qui sont faits. Et j'ai été très interpellé de voir que ça décrit, la science aujourd'hui décrit quelque chose qui est dans la Bible. Et qu'est-ce qu'il décrivait à ce moment-là? Ben, il décrivait que. Et c'est pour ça, moi je crois à la fin des temps, comme beaucoup d'entre vous, comme les pasteurs aussi, qu'on est dans la fin des fins. Alors, la fin, sachez que ça a commencé avec la venue de Jésus. Hein, c'est la fin où Jésus a apporté le royaume sur la terre. Et donc c'est la fin. Mais la fin est dure jusqu'au moment de la parousie, lorsque nous serons enlevés avec le Seigneur et que Jésus va établir son royaume sur la terre. Donc on s'approche de la fin, mais c'est la fin. Et dans la fin, je crois que nous sommes, Dieu lève le voile de la connaissance. On n'a jamais connu autant de choses sur la création de Dieu, sur ce que Dieu a créé. Et ça, pour moi, c'est un signe que le Seigneur permet à l'humanité, à l'homme, d'avoir une connaissance de la création tellement importante, tellement intense, que quand il y aura le jugement devant Dieu, parce qu'il y aura un jugement, nous aussi on passera devant le jugement, eh bien, aucun homme ne pourra dire qu'il n'avait pas la possibilité de connaître Dieu. Pour moi, c'est ça qui me pousse à croire effectivement qu'on est dans la fin où Dieu lève le voile de la connaissance sur la création qu'il a faite. Et moi, j'étais vraiment incroyablement épaté, pourtant je suis scientifique et j'aurais dû le savoir, qu'en fait, aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a sur l'infiniment petit et l'infiniment grand, hein, et on lance des fusées, on veut aller de planète en planète, et puis l'infiniment petit, ils sont arrivés à quelques millisecondes, quelques 5 secondes, je crois, à créer un soleil artificiel, même 10 fois plus que le soleil, pour créer l'énergie propre qui va alimenter l'énergie future. Par contre, il y a encore des décennies jusqu'à ce qu'ils le maîtrisent, mais ils sont arrivés à le créer. Donc, vous voyez, l'orgueil de l'homme, bien sûr, se vante de dire « Ah, oh, la science peut tout faire ». Et en fait, les grands scientifiques, ils savent qu'ils ne savent rien, parce qu'ils découvrent tout le temps de nouvelles choses dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. Donc, ça les dépasse. Et là, ça devrait les interpeller pour dire « Et par rapport à Dieu ». Donc, Dieu existe. Bien le livre qui existe, Dieu, la science, les preuves, qui montre qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire que Dieu n'existe pas. C'est impossible. Et dans cette révélation que j'ai vue et qui m'a rappelé des souvenirs quand j'étais à l'école, aux grandes écoles, eh bien, c'est l'aujourd'hui qui m'a frappé. À savoir que cette notion du temps, le temps. Alors nous, comment est-ce qu'on exprime le temps? On parle du passé, du présent et du futur. Voilà. Donc tout simplement, passé, présent, futur. C'est un passé pour l'humanité, c'est un passé pour nous. Hein. On était petit, on est grand, et puis après on va mourir, etc. Donc passé, présent, futur, c'est très simple à comprendre pour tout le monde parce qu'on le vit. Et on pense que c'est le temps. Et c'est le temps, vous voyez, chaque seconde ça passe, la Terre tourne, etc. Eh bien, la science, vous connaissez Einstein, je ne vais pas vous demander si vous le connaissez ou pas, tout le monde le connaît, eh bien, Einstein a démontré scientifiquement que le temps n'existe pas. Oui. Et donc, ça interpelle, on dit, waouh, le temps n'existe pas. Alors, rassurez-vous, même moi, j'arrive pas à le comprendre, donc je ne vais pas ce matin faire une démonstration de ce qu'a fait Einstein. N'empêche que c'est prouvé, ils ont prouvé la théorie d'Einstein. Mais Dieu l'a déjà révélé dans la Bible. C'est pour ça que dans la Bible, si vous voulez, il y a des trésors de révélation que même si on ne les comprend pas, ils sont vrais. C'est pour ça que la Bible est la vérité. Parce que la vérité, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui se prouve. Puisque Dieu a créé la création. Hein, Dieu nous dit, enfin, la Bible nous dit que Dieu a créé les animaux, enfin la terre, etc., les animaux, l'homme, etc. Donc la création vient de Dieu. Donc dans cette création-là, qui n'a pas changé depuis le début, sauf qu'il y a eu des chaos, il y a des. Bon, il y a eu des. Aujourd'hui, aussi, on a des problèmes climatiques et tout ça. Mais n'empêche que la création, elle est toujours la même. Donc quand on l'observe attentivement, on découvre la signature de Dieu. On découvre la signature du Créateur. Et c'est ça qui devrait nous interpeller, nous dire, waouh, si le Créateur existe, qu'est-ce que je fais? Alors si je prends la Bible, elle nous parle de la bonne nouvelle, c'est-à-dire que la Bible n'est pas un livre scientifique, elle ne veut pas nous démontrer des théories d'Einstein ou autre. Mais quand on prend la Bible, on l'ouvre, et si on part de l'idée que Dieu s'est révélé dans la Bible, là, on arrive au salut. Et vous, il y a deux choses. Il y en a qui disent, ouais, non, mais tous ces livres, Dieu, la science, l'épreuve, tout ça, il ne faut pas en tenir compte. Ok, ça n'apporte rien à la foi, mais ça amène à être interpellé sur l'existence de Dieu et que derrière, on a une foi encore plus solide que si on ne l'avait pas, parce qu'après, on peut arriver à la démarche du salut, qui est autre chose, ce qui est d'accepter Jésus dans nos vies. Et ça, c'est une interpellation personnelle par rapport à nos péchés. Parce qu'il est venu pour nos péchés, il est venu pour un but. Voilà, donc il y a deux choses différentes, mais qui sont complémentaires. Alors pour revenir à l'aujourd'hui de Dieu, en fait, le temps, nous, on le décrit passé, présent, futur. Sauf que une chose dont on est sûr, c'est le présent. Hein? Essayez de vous pincer, là, vous êtes bien là, vous êtes avec moi? Ok, donc le présent, vous en êtes sûr? Mais je viens de prononcer le présent, il est déjà dans le passé. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas le passé. Le futur, je ne le maîtrise pas, parce que ce que je vais dire dans 2 minutes, peut-être Dieu va me faire dire autre chose, je ne le maîtrise pas. Je le sais parce que j'ai préparé un message. Mais vous voyez, je voudrais vous faire toucher quelque chose que l'aujourd'hui, aujourd'hui, à l'instant, ça je le maîtrise parce que je suis là. Et c'est pour ça que l'aujourd'hui, qui se retrouve, je ne vais pas vous lire tous les versets qui sont incroyablement nombreux dans la Bible, l'aujourd'hui de Dieu, l'aujourd'hui, c'est la seule chose dont on est responsable. Moi, je suis responsable de mon aujourd'hui. Toi, tu es responsable de ton aujourd'hui. Si moi, je sors dans la rue et je ne fais pas attention et qu'une voiture me renverse, ma vie peut se terminer tout de suite. Donc, il faut que je sois prêt aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'aujourd'hui, c'est le présent, si vous voulez. C'est le présent dont je suis responsable parce que Dieu me donne la possibilité de dire oui ou non à quelque chose, c'est-à-dire d'exercer ma volonté. Est-ce que vous me suivez? Ok? Voilà. Je ne veux pas voler trop ou des choses comme ça pour vous faire perdre le pied. Hein. C'est quelque chose de très concret aujourd'hui. Et tout à l'heure, je vais vous montrer quelques versets qui montrent que l'aujourd'hui de Dieu, c'est vraiment le cœur de la bonne nouvelle que nous devons et que nous devons aussi annoncer aux autres. Aujourd'hui, Dieu te parle. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas louper les occasions quand Dieu nous montre quelqu'un à qui parler. Il ne s'agit pas de parler comme ça à tout le monde, parce que si les gens ne sont pas prêts, on peut les ennuyer, on peut simplement témoigner. Mais si Dieu nous montre quelque chose, il faut le faire tout de suite, obéir tout de suite, parce que l'occasion peut partir et on peut ne plus faire la volonté de Dieu pour cette personne qui a besoin qu'aujourd'hui, ça soit son aujourd'hui. Amen. En fait, pour comprendre que le temps n'existe pas, je ne vais pas vous le démontrer, je ne suis pas capable, et en fait, on dit changer de paradigme, changer de façon de voir. C'est-à-dire que ceux qui le maîtrisent, ce n'est pas du tout mon cas, toute la théorie de la relativité, hein, je parle des gens qui font justement le soleil artificiel en ce moment pour préparer l'énergie de demain, tous ces gens-là, ils sont obligés d'être au top de cette connaissance. Et ils sont dans une autre manière de voir les choses que nous. C'est changer de modèle d'interprétation de la réalité. La réalité est toujours la même. Ce pupitre, la théorie dit qu'il y a 99% de vide, donc c'est du vide. Or, nous, on voit de la matière, donc on ne comprend pas. Parce que, en fait, quand on change le modèle de paradigme, c'est toujours la réalité, mais on rentre dans une autre façon de voir les choses. On peut voir les deux. Hein. On peut voir ça comme de la matière solide et qui permet de m'appuyer dessus. Et on peut aussi le voir comme du vide. Pourquoi ? Parce qu'on rentre dans la théorie de relativité, et puis ça, je peux le transformer en énergie, énergie en matière, etc. Et c'est comme ça qu'on a aujourd'hui des possibilités d'avoir de l'énergie à partir de la matière. Mais c'est pareil pour le royaume de Dieu. Comprendre les valeurs du royaume de Dieu, c'est accepter de changer de modèle, de compréhension, et comprendre l'importance de la personne et de l'œuvre de Jésus. Moi, j'aime beaucoup le livre des Colossiens, Philippiens-Colossiens, parce que c'est des épîtres qu'on appelle circulaires. Ce n'est pas des épîtres à Corinthe ou des épîtres qui sont envoyés à des églises particulières. Paul disait, ces épîtres-là, faites-les tourner, donc dans toutes les églises. Parce que c'était des enseignements épistolaires de Paul qui étaient universels, c'est-à-dire qui s'adressaient par exemple à l'église. Dans Éphésiens, vous avez vraiment l'exaltation de ce que c'est que l'église. Si vous voulez comprendre comment marche l'église, vous lisez Éphésiens. Et là, c'est magistral. Si vous voulez comprendre la gloire de Christ, vous prenez Colossiens. Et Colossiens, chapitre 1er, c'est extraordinaire, extraordinaire. Quand il parle du Christ, qui est le centre de toute la création de Dieu. C'est-à-dire toute la création qui existe, là, ce dont je vous ai parlé, etc., c'est en Christ. C'est-à-dire que si les scientifiques voulaient aller jusqu'au bout, et il y en a qui le font, hein, jusqu'au bout de leur recherche, ils découvrent Christ. C'est pour ça le modèle d'évangélisation aujourd'hui il va plus loin que la Bible. C'est qu'il y a des scientifiques, moi je l'ai écouté sur YouTube, hein, qui ont découvert Christ en allant. Quand ils sont cohérents. Il ne faut pas, bien sûr, qu'ils aient un modèle d'athéisme qui dit non, c'est pas vrai, etc. Mais quand ils cherchent sincèrement, ils découvrent Christ au bout de leur recherche. Parce que Christ est au centre de tout. C'est en lui. C'est par lui que Dieu a créé l'univers, et c'est en lui que se trouve l'univers. C'est-à-dire tout est en lui, par lui et pour lui. Vous voyez ? En Christ. Ça aussi, ça me dépasse. J'arrive pas à comprendre ça. Mais si je le crois par la foi, je commence à être émerveillé. On connaissait un pasteur, là il est mort, Théo Hamann, qui était un physicien nucléaire et qui enseignait dans une université nucléaire qui était à Mulhouse. à côté de l'église Peter Schmidt. Et quand il enseignait, il nous parlait justement de toute cette connaissance qu'il avait en parlant, en prenant la Bible, en prenant les psaumes, en prenant les machins. Et là, on était ébahis, quoi, de tout ce qui sortait. Moi, je ne peux pas sortir, je n'ai pas cette compétence, je n'ai pas cette capacité, et d'autres non plus. On a entendu, Michel, quand on était jeune dans la foi à Paris, des évangélistes comme Fernand le Grand ou autres, etc., qui parlaient de ça, mais waouh, à la fin, il y avait un appel, les gens se convertissaient comme des mouches, quoi. Je veux dire, ils étaient touchés par la profondeur de la sagesse et de la puissance de Dieu. Il y en a plusieurs qui suivent un peu l'enseignement que je donne, enfin c'est pas mon enseignement, mais c'est l'éclairage que je donne sur la théologie de l'ADE. En fait, l'ADE, c'est un théologien qui, dans les années 60, a compris avec tout son entourage que si les évangéliques n'avaient pas une théologie à eux, c'est-à-dire basée sur la puissance de Christ et la génération de Christ, il n'y aurait plus d'évangéliques, en tout cas. Il y aurait des évangéliques, mais qui partiraient dans les décors, dans tous les sens, mais sans réel fondement biblique. Et donc, dans les années 70, j'ai eu connaissance de ces livres, je les ai pris et je les ai dévorés, tout ça. Et là, je les refais un peu pour des chrétiens de l'Église, que plusieurs le font, j'en ai 8. Et ça nous permet de changer de paradigme. C'est-à-dire que de penser comme Dieu pense, vous voyez? Que le royaume, parce que le royaume, c'est le règne de Dieu, hein. C'est Dieu règne, et il est venu en Christ pour régner sur la terre. Et donc ce règne, quand on comprend au travers des Écritures, et ce livre justement prend tous les livres, hein, en commençant par les évangiles, des évangiles, etc., et les épîtres, montre que quand on se met dans la pensée de ce que ceux qui ont écrit la Bible, et quand on essaye de penser comme eux, et quand on rentre dans leur pensée, on voit le règne de Christ tout à fait différemment, dans notre vie, dans la vie du monde, dans la vie de l'Église. Donc c'est un peu comme tout à l'heure, dans la matière, il faut changer de paradigme pour comprendre, et dans la lecture de la Bible, on peut rentrer dans une dimension beaucoup plus profonde que ce qu'on a de manière superficielle quand on lit la Bible comme ça. Et en fait, un des principes du royaume, c'est le déjà pas encore. Il y en a qui ont entendu déjà ça, le déjà pas encore du royaume. Il y en a qui n'ont jamais entendu parler de ça. En fait, le déjà pas encore du royaume, qui est enseigné par les chrétiens évangéliques, justement, qui sont basés sur une compréhension de ce royaume, c'est qu'en fait, Dieu y règne déjà, et il règne par le fait que Jésus, il a envoyé Jésus. Vous connaissez Jean 3,16? Car Dieu a envoyé Fils unique. Il faut que quiconque croit en lui ne périsse pas. Dieu a envoyé son Fils, c'est-à-dire qu'il est descendu. Le Fils est devenu Fils de l'homme, Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme, pour mourir, etc. Et c'est en envoyant son Fils que son règne est descendu sur la terre. Avant, dans l'Ancien Testament, il y avait toujours le règne de Dieu, mais il régnait au travers des lois de Moïse. Et il fallait que les lois étaient sur des tables, hein, sur des tables de pierre. Mais avec Jésus, la loi est rentrée dans le cœur. Donc c'est une période de grâce différente. Il y avait la grâce au travers de la loi, et maintenant c'est la grâce au travers de Jésus. Et donc c'est pour ça qu'on parle de la nouvelle naissance, la naissance nouvelle, la naissance d'en haut. Parce que dans le Nouveau Testament, pour recevoir Jésus, il faut le recevoir dans le cœur. On ne le reçoit pas comme Moïse sur une montagne avec le feu, le machin et tout ça, etc. Non. On le reçoit dans le cœur. Et Dieu grave dans nos cœurs sa parole. Et c'est ça le fondement du chrétien évangélique qui a reconnu la bonne nouvelle de Jésus dans son cœur. Et ce qu'il y a, c'est que quand on reçoit cela, enfin quand Jésus, c'est un parallèle entre Jésus et le Jésus qu'on reçoit. Le Jésus historique qui est venu il y a 2000 ans, il est venu avec ce règne et il a régné pendant 3 ans, enfin il a régné 30 ans, mais il a son ministère public. s'est manifesté pendant 3 ans, et ce règne, il a manifesté la puissance de Dieu. Dans les guérisons, dans les miracles, dans la délivrance, dans tout ce que vous connaissez. Il avait l'autorité sur la tempête, sur tout, voilà, parce que c'est le Christ, tout en étant soumis à son Père, et c'est là qu'il nous a donné le modèle du discipulat. Mais quand il est venu, il a amené avec lui le règne sur la terre. Ce qu'il y a, c'est que, il aurait dû rester avec nous. Vous êtes d'accord ? Vous voudriez que Jésus soit au milieu de nous ? Hein ? Voilà, on voudrait toujours être au temps des apôtres, etc. Même les apôtres, Jésus est parti. Il est monté au ciel. Et qu'est-ce qu'il a fait après ? Allô ? À quel moment il a envoyé son esprit ? Pentecôte. C'est quoi la Pentecôte ? C'est la naissance de l'Église. C'est là que l'Église a commencé. Pourquoi ? Parce que il fallait que le règne continue sur la terre sans Jésus, mais par son esprit. Donc, il a envoyé son esprit qui habite le cœur des croyants. Allô ? Il habite dans vos cœurs ? Par quel moyen ? Ah, je vous fais interagir ce matin. Hein. Désolé. Mais... J'aime bien interagir parce que comme ça, je ne suis pas perdu. Parce que si j'avance trop vite, je vous perds. Il avance, c'est par la foi. Il y en a qui ont cru ici par la foi. Alors, il y en a qui peuvent croire par une rencontre extraordinaire. Bien sûr, la foi essuie, mais par une rencontre. Regardez Paul. Il persécutait les chrétiens, il les mettait en prison, il les jetait en prison, il les persécutait, toutes sortes de moyens. Et à un moment donné, il est tombé de son cheval, il y a eu la puissance de Dieu qui est venue sur lui, et il a rencontré le Seigneur, et ensuite après, Dieu lui a parlé, il est devenu apôtre. Donc ça peut être une rencontre de puissance, ça peut être différents moyens, Dieu connaît les moyens pour nous parler. Ce qu'il faut, c'est à un moment donné dire oui. Et là, c'est l'aujourd'hui de Dieu. Amen. Moi-même, j'ai vécu un aujourd'hui de Dieu, dans le sens où, depuis tout petit, j'ai toujours aimé Dieu et j'ai servi Dieu dans l'Église. Et j'avais le Nouveau Testament comme livre de chevet, à côté de moi, tout le temps, jusqu'à mes 20 ans. Et je lisais le Nouveau Testament, parce que chez les catholiques, on ne connaît pas trop l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament, on le connaît. Et à 20 ans, j'ai rencontré un ami que je connaissais très bien, parce qu'on a passé, 5-6 ans, au lycée et tout ça. Et puis là, c'était un moment, en 1967, où il y a eu la guerre des six jours en Israël. Et il y avait des grands photos dans Paris Match. Vous savez, Paris Match, je ne sais pas en ce moment le format, mais il était grand comme ça. Voilà. Il y avait des grandes photos où vous voyez les chars où les Arabes ils sortaient et fuyaient alors qu'il n'y avait rien, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a des anges qui apparaissaient. Ils voyaient des anges énormes, de l'ordre de 10 mètres de haut, parce qu'il y avait juste un char ou deux d'Israël, parce qu'ils étaient pris ailleurs, et eux, ils avaient une centaine de chars en face, en Syrie, sur le plateau du Golan. Et ils ont vu cet ange qui avait une épée, etc. Et ils ont tous fui, les Israéliens, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils fuient, ils n'ont rien compris, parce qu'ils n'ont pas vu l'ange. Pourquoi ? Parce que Dieu... Il intervient de manière, parce que comme je vous ai dit, là, c'est peut-être 99% du vide, il y a des réalités angéliques, il y a des réalités spirituelles que Dieu a créées aussi. Voilà. Et quand Dieu les fait intervenir parce qu'ils sont au service de Dieu, ils font des choses que nous, on ne peut pas faire. C'est pour ça que Dieu règne. Et il règne de toutes sortes de manières. Je reviens à ce déjà pas encore. Quand on rencontre le Seigneur, quand on est brûlant de l'amour de Dieu qui vient en nous, en fait, on sent que Dieu règne, qu'il y a quelque chose qui se passe de surnaturel. Le problème, c'est qu'on n'est pas transformé d'un seul coup, on devient parfait, on est comme Jésus, etc. Hein, vous avez déjà remarqué ça, que vous n'êtes pas parfait? Hein? Ceux qui sont mariés, demandez à vos conjoints si vous êtes parfait. Non, on n'est pas parfait. Mais on est parfait en Christ. Donc il y a une réalité qui existe quand même, puisque quand on naît de nouveau, on reçoit le Seigneur dans notre cœur, et là, on est parfait, parce que le Seigneur est parfait, l'Esprit est parfait, vous êtes d'accord? L'Esprit de Dieu est parfait. Donc on le reçoit. Donc on reçoit le règne en nous, le règne de Dieu. Par contre, il faut attendre que notre corps périsse et qu'on reçoive un nouveau corps pour que là, on soit parfait. Vous voyez? Donc vous voyez, c'est déjà là et pas encore là. Mais on est dans l'espérance que ça arrivera. Il y en a qui ont l'espérance ici que votre corps sera transformé à la gloire de Dieu. Amen. Ben c'est ça. C'est ça le déjà pas encore. Alors c'est difficile de vivre le déjà qu'on a reçu. Là, je ne parle plus du Christ historique, je parle du Christ que vous avez reçu. Moi, je l'ai reçu en septembre 67. Voilà. Je crois le 1er septembre 67. Mon anniversaire, quoi. J'avais 5 septembre. Et ça m'a transformé complètement. Par contre, depuis ce temps-là, il faut que je travaille sur ce qu'on appelle la sanctification, hein, c'est-à-dire la transformation de mon être pour que mon témoignage soit un témoignage vrai de cette présence en moi. Et ça, c'est un travail dans chaque chrétien qui a été, depuis 2000 ans, bien enseigné par Bunyan et autres qui l'ont vulgarisé dans le voyage du pèlerin ou autre. Tout ça pour que notre témoignage puisse être un témoignage qui renvoie à ce Jésus que tout le monde peut rencontrer. Mais il faut attendre la fin, il faut attendre que notre corps se détruise pour revêtir un nouveau corps. Amen. Et ce corps, nous pouvons déjà le connaître parce que Jésus est venu vers ses disciples dans ce nouveau corps. Amen. Vous le croyez? Quand il est venu, après sa mort, il est ressuscité. Et quand il est venu, eh bien, il traversait les murs. OK? Il traversait les murs. Alors, je dis, ah, comment ça se fait? Ben, aujourd'hui, avec l'explication de ce que je vous ai dit au début, on peut l'expliquer. Et dans ce fameux documentaire, il explique. Aujourd'hui, déjà, on peut traverser les murs, etc. Pardon? Pas nous, pas nous. De toute façon, moi, j'ai travaillé à l'aérospatiale, je faisais les fusées. Et vous savez, quand on travaille avec l'hélium, eh bien, ça traverse tous les matériaux. Donc, vous pouvez pas stocker l'hélium, c'est très compliqué. Vous voyez, quand vous voulez faire passer une fusée, parce que. Et aujourd'hui, regardez, en France, ils ont la fameuse centrale là qu'ils n'arrivent pas à mettre en route à Flamanville. Ça fait 12 années qu'ils sont en retard. Ils sont à 54 milliards alors que ça prévu 2 milliards. Vous voyez. Et tout ça parce que c'est des soudures, ils fuient. Parce que la radioactivité traverse les soudures. Donc il faut des soudeurs, mais ils sont à la limite de ce qui est possible de faire et ils n'y arrivent pas. Alors la France vend des trucs en Grande-Bretagne, mais ce n'est pas validé. Aujourd'hui, en France, ça ne marche toujours pas. Voyez, parce qu'on est à la limite de ce qu'on peut maîtriser entre ce qui traverse la matière et ce qui traverse pas. Et donc, parce qu'on veut atteindre les limites de tout ce qu'on peut maîtriser. C'est pour ça que je vous disais, on peut toucher la création, le Créateur, en allant jusqu'au bout de notre recherche du Seigneur. Pour revenir au déjà pas encore, donc nous aussi, on le vit à notre niveau. Mais ce qui est important, c'est l'aujourd'hui de Dieu. C'est que chacun de nous doit vivre aujourd'hui, pas dans le passé ni dans le futur, puisque ça ne nous appartient pas et ça n'est pas maîtrisé, mais aujourd'hui. C'est pour ça que quand il y a une réunion d'évangélisation et que celui qui a le don d'évangéliste qui fait un appel, et à ce moment-là, regardez Billy Graham, etc., combien de personnes se sont converties au Seigneur parce qu'il y a un appel, il y a une réponse et il y a eu un déclic parce que Dieu répond à la volonté ouverte de recevoir le Seigneur. Dans Hébreux chapitre 13, verset 8, il est dit: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, il est éternellement présent. Pour ceux qui ont vécu avant, maintenant, après nous, vous voyez, mais chacun doit saisir l'instant présent. Il est en dehors du temps. De toute façon, le temps n'existe pas, donc il est dans l'éternité. Et nous, on vit déjà dans l'éternité. Parce que notre temps à nous, bon, c'est illusoire. Là, Einstein disait que le temps est illusoire. C'est bien parce qu'on a des montres, on peut se donner rendez-vous à telle heure, etc. Donc c'est pratique. Ouais. Mais en même temps, ça n'existe pas. Dieu seul est dans cette réalité qui est éternelle et dans laquelle on peut rentrer. Dieu sait ce qui s'est passé pour toi, si tu as au-delà de 30 ans, ce qui s'est passé il y a 30 ans. Et il sait ce qui va se passer dans 30 ans aussi. Et il le voit. Et aujourd'hui, avec la science, vous pouvez le voir, à la limite. Vous voyez? C'est ce qu'il montre dans ce film qui m'a passionné. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on ne peut pas se dérober au Seigneur. Et c'est pour ça que, à chaque fois, une interpellation, que ce soit pour l'appel à se convertir, que ce soit pour l'appel à un ministère ou l'appel à quoi que ce soit, si on ne répond pas tout de suite quand Dieu nous interpelle, quand on l'entend, on risque de passer à côté de notre futur. Parce que Dieu nous appelle maintenant. Parce que le futur ne nous appartient pas, le passé non plus, mais le présent, ça nous appartient. Je vais lire dans Hébreux l'ensemble de ce passage. Enfin, je vais déjà lire le verset 7 et ensuite après je vais lire de 1 à 16. Hébreux 4, 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Alors, si on reprend dans cette phrase les éléments importants, c'est aujourd'hui. Ça commence par aujourd'hui. Donc, maintenant, tout de suite, aujourd'hui. Vous voyez, ce n'est pas un instant. Avec le Seigneur, il ne faut pas, faut pas faire, laisser passer le temps. Parce que le temps, c'est le diable qui s'en occupe. Parce qu'il va nous montrer des illusions, des choses qu'on n'a pas vues à ce moment-là. Dieu nous parle aujourd'hui. Si vous entendez le mot qui est utilisé pour entendez, ce n'est pas le mot écouter, c'est le mot entendez. C'est de manière attentive. En grec, c'est kalouer, kaleou. C'est de manière attentive. Voyez-vous, on peut entendre ou écouter quelque chose. Vous voyez, vous écoutez une musique, vous faites autre chose, vous ne vous rappelez même plus ce que vous avez écouté. Bon, parce que c'est un bruit de fond. Donc vous écoutez avec l'oreille, mais vous entendez si vous prêtez attention à ce qui est en train d'être joué, voyez-vous. Donc, il y a deux mots différents en grec qui sont utilisés pour ça. Un, c'est pour l'oreille qui reçoit les sons, et l'autre, ça passe par la compréhension de ce qui se passe, comprendre. Et Dieu nous demande de comprendre, c'est-à-dire d'entendre, de recevoir le message pour en faire quelque chose. Et à ce moment-là, il dit, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est quoi le mot, endurcir vos cœurs? Tout simple, c'est simplement il faut comprendre qu'il faut se disposer rapidement à agir quand vous avez compris. Quand vous avez compris par révélation, quand vous avez compris par la logique, peu importe comment vous comprenez, Dieu se sert de 36 manières pour vous faire comprendre des choses. Mais quand vous avez compris, il s'agit d'agir tout de suite. Ce qui s'est passé dans le drame avec Adam et Ève, voilà, on remonte au début du péché. C'est que Dieu a dit à Adam et à Ève, mais c'est d'abord à Adam, tu ne mangeras du tout sauf de cet arbre-là. Il se trouve que Ève était à cet arbre-là, elle aurait pu éviter d'y aller, mais bon, je ne vais pas refaire l'histoire, hein, c'est facile. Mais elle était là. Et qu'est-ce qui est apparu là? C'est un serpent. Et qu'est-ce qu'il a fait le serpent? Il a créé le doute. Il n'y a rien de pire que. Quand on est dans l'aujourd'hui de Dieu, d'être dans le doute. Il faut fuir à quatre pattes tout ce qui est doute. Je vous préviens, hein, que ce soit les jeunes, que ce soit. Pardon? Ah, très bien. Que ce soit les jeunes, vous voyez, qui sont tentés, au lycée, pour les questions de drogue ou autre, ou aller. Quand vous sentez que vous êtes au mauvais endroit, partez tout de suite. Pour la pornographie, c'est pareil, etc. Vous voyez, c'est parce que, comme on n'obéit pas immédiatement quand on reçoit quelque chose qui va forcément y aller, ben on va chuter. Je ne sais pas si c'est Billy Graham qui utilisait dans ses discours, ses sermons, en disant que, vous voyez, si vous voyez des affiches, etc., bon, vous pouvez voir de la nudité s'afficher. Premier regard, ce n'est pas grave. C'est le deuxième et le troisième regard. Vous voyez. C'est quand vous vous attardez sur quelque chose qui, bien sûr, vous attire et que vous focalisez, c'est là que l'ennemi vient. Parce que l'ennemi est derrière, mais c'est nous qui sommes responsables. L'aujourd'hui de Dieu, ça nous responsabilise sur ce que nous faisons au moment où Dieu nous parle. Si nous avons été enseignés en disant fais attention à ceci, fais attention à cela, et qu'on est conscient qu'on a entendu la parole, et qu'à ce moment-là, on ne détourne pas le regard, ou on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, eh bien nous sommes responsables de notre chute. Ève, elle s'est fait piéger parce que à partir du moment où elle était au mauvais endroit, eh bien le doute, bien sûr l'ennemi utilise le doute, hein, peut-être bien puis, peut-être bien que non, Dieu n'a pas vraiment dit ça, et commence à discuter, c'est foutu, hein, c'est les puits dans l'aujourd'hui. Ouais. L'aujourd'hui, c'est de dire non tout de suite. Regardez l'exemple de Joseph. Joseph, hein, dès qu'il était abordé par la femme qui voulait coucher avec lui, il a fui, même il a déchiré son vêtement, il est parti. Et c'est comme ça qu'il est resté intègre. Le problème, c'est nous, le problème. Ce n'est pas l'ennemi. Bien sûr, ce serait mieux qu'il soit enfermé, mais ça viendra. Rassurez-vous. Il est prévu un temps où il ne pourra plus rien faire. Mais aujourd'hui, il joue sur les doutes. Et c'est pour ça, je vous encourage à rester intègre dans votre vie. Parce que si vous n'êtes pas intègre, vous courez le risque du doute et du péché et de la chute. L'intégrité, j'aime bien Aurèle Vidal qui est venue, son message, elle avait dit, regardez leur fin. Il y a beaucoup de gens qui commencent bien. Et dans les ministères, par exemple, ils commencent bien. Et regardez, en ce moment, on connaît des ministères, parce qu'on était aux États-Unis, au Canada, Michel et moi, donc on connaît beaucoup de prédicateurs, beaucoup de gens, etc. On regarde, et il y en a énormément qui sont complètement à côté de la plaque, qui ont complètement perdu. Voilà, celui qui était là, le pasteur Abraham Kiss, qui a délivré ce local majestueusement, ben, aujourd'hui, il n'est même plus dans une église, quoi. Non seulement il peut pas pasteur, et puis dans une église, et c'est juste qu'il n'a pas perdu la foi, quoi. Vous voyez, il faut faire très attention de l'aujourd'hui de Dieu. Quand il nous parle, il faut obéir. Obéir, ça veut dire répondre tout de suite à ce que Dieu nous dit. Parce que le reste, ça ne nous appartient pas. Ça appartient à l'ennemi. Lui, il va l'utiliser pour nous amener le doute en nous et nous faire chuter. Regardez ce qui s'est passé avec Moïse, ce qu'il dit là. Il dit, n'endurcissez pas vos cœurs, c'est refait tout de suite, comme lors de la révolte avec le veau d'or. C'est à ça qu'il fait allusion dans Hébreux 4. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu. Les Israélites à l'époque, pourquoi ils ont chuté au veau d'or? Bien sûr, Moïse était parti 40 jours, ça fait quand même beaucoup. Et bon, 40 jours par rapport au temps qu'ils étaient dans le désert, c'est rien. Mais c'est simplement parce que pendant la marche, entre le moment où ils sont passés miraculeusement la mer Rouge, et jusqu'au moment où ils sont marqués en Horeb, on dit qu'ils murmuraient. Ils murmuraient quoi? Ben, au lieu de se réjouir, bien sûr, c'est pas facile de se réjouir dans le désert, mais justement, ils devaient se réjouir du Seigneur qui avait fait des miracles extraordinaires de les délivrer du Pharaon. Mais ils ont pensé, eh ben, c'était beaucoup mieux en Égypte. On avait des oignons, on avait des navets, de la viande, on avait toutes sortes de choses, quoi. Ils n'ont pas pensé à l'esclavage, ils ont pensé aux choses bonnes. Et l'ennemi nous attire toujours par des choses bonnes, pas par des choses mauvaises. Sinon, ce serait trop facile, on se méfierait. Les idoles. Mes amis, on a souvent prêché, je vous en prêchais sur les idoles, et tout le monde le sait. Les idoles, ce n'est pas des choses mauvaises. Les idoles, ce n'est pas des choses mauvaises. C'est des choses bonnes poussées plus loin, c'est-à-dire plus belles que tout ce que vous pouvez imaginer. Voyez. Et c'est ça l'idolâtrie. C'est pour ça qu'on tombe dans l'idolâtrie, parce que ce n'est pas des choses mauvaises, c'est des choses bonnes, mais qui sont poussées au-delà et qui vous attirent. Et à ce moment-là, vous tombez dedans. Vous voyez. C'est comme ça que l'ennemi, il a fait depuis le début, il va continuer jusqu'à la fin. L'idolâtrie, c'est quelque chose qui nous attire vers le mal. Donc le veau d'or, c'est venu tout simplement parce que ils ont dit, ah ben ça y est, Dieu nous a abandonnés, Moïse nous a abandonnés. Et leurs pensées sont retournées à l'Égypte. Et quand, eh bien, il y en a un, deux, trois qui a lancé, ah mais attendez, faisons un veau d'or, waouh! Vous savez, la foule, hein, c'est terrible. La foule, vous l'arrêtez pas. Hein. Les politiques le savent. Hein. Faire attention à la foule. Parce que la foule renverse, fait des révolutions. Donc, parce que vous régnez sur une foule. Si la foule se renverse, il n'y a plus de royauté et plus de règne. Donc, la foule, faites attention. Et en particulier les jeunes. Quand vous êtes dans une meute, dans une foule, bah, sortez tout de suite. Tout de suite, pour vous protéger. Parce que ce n'est pas bon du tout. Pour vous entraîner au mal. Donc, ils ont fait un veau d'or. Et là, il dit, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est-à-dire que tout de suite, ils auraient dû, eh bien, rentrer dans la prière, dans l'intercession. Enfin, je ne sais pas, ils avaient des cultes à ce moment-là. Et c'est ça qui les aurait gardés. Alors, il dit que Dieu fixe un nouveau jour, un jour nouveau. C'est dans le psaume 95 qui est écrit par David. Et déjà à l'époque, David donc parlait de ce jour. Il dit, venez, prosternons-nous, c'est le psaume 95, humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme lors de la journée de Massa dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué. Ils m'ont mis à l'épreuve, bien qu'ils m'aient vu agir. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Un chrétien, qu'est-ce qu'il doit rechercher? Rechercher beaucoup de choses. Mais en fonction de mon message, est-ce qu'il vous vient quelque chose à l'esprit qu'un chrétien doit rechercher? Souvent, Oscar en parle, hein, peut-être d'une autre manière, mais il prêche la même chose. Qu'est-ce qu'on doit rechercher en tant que chrétien? Et qui est aussi un signe de notre communion avec le Seigneur. Parce que vous voyez, parfois on ne voit pas un chrétien où il est, mais on voit les fruits. Et Jésus a dit, regardez-les à leurs fruits. Et c'est quelque chose que ma belle-mère, donc la maman de Michel, avait comme discernement. Elle dit, tu vois, celle-là, ou telle personne n'a pas ça. Je vais vous le dire tout à l'heure. Et en fait, elle se trompait jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce que ça renvoie à quelque chose qui, effectivement, n'est pas un chrétien qui tient debout, quoi, qui va tomber. C'est le repos. Il y en a qui aiment le repos ici, non? Préférez l'agitation? Qu'est-ce qui aime le repos ici? Levez la main. Rassurez, quand même. Le repos. Dieu donne le repos. Ça veut dire que vous allez être allongé sur la plage en permanence, etc. Ce n'est pas ce repos-là. C'est le repos du cœur, le repos de l'âme, le repos de l'esprit. Et ma belle-mère disait souvent, cette personne-là, eh bien, elle n'est pas en repos. Et effectivement, tôt ou tard, on voyait que ça posait d'énormes problèmes. Parce qu'une personne qui n'est pas en repos, elle est frustrée, elle est tiraillée, elle est toutes sortes de choses qui se passent en elle, et à un moment donné, paf, l'ennemi s'en sert. Quand vous êtes dans le repos de Dieu, et Dieu nous apporte le repos en Jésus. C'est un repos. J'aime bien ce chant. Quel repos. Pardon. Quel repos céleste. Enfin, c'est des chants du réveil à l'époque, hein, où justement toutes ces choses-là étaient connues. Hein, vous n'avez même pas besoin de les prêcher. Le repos du Seigneur. Quel repos céleste. Repos immense. Repos. Vous voyez. Et souvent, la paix, on l'illustre par une colombe qui est dans un rocher où il y a une tempête, il y a des vagues, etc. Elle est dans le repos, dans la paix. Et c'est quand on est dans la paix que le Seigneur peut nous parler et que l'ennemi ne peut pas nous parler. Parce qu'il n'aime pas le repos, il n'aime pas le calme. Il préfère la tempête. L'ennemi préfère la tempête. Parce que là, il peut agir, il peut vous exciter, etc. Oui. Le repos de Dieu. Le dimanche, c'est prévu un jour de repos. Que ce soit le dimanche, le samedi, j'ai rien contre les adventistes qui le font le samedi, c'est pas un problème, mais un jour de repos. Et dans ce jour de repos, qu'est-ce qu'on fait dans ce jour de repos? Allô? J'entends pas parce que c'est trop bas. C'est de servir Dieu. Vous voyez, on sert quelqu'un, mais on sert Dieu. Alors, on le sert au culte, on le sert dans la journée, on le sert... Voyez-vous, actuellement, on est pas mal avec Gilles, qu'on connaît un peu mieux, et son église. Bon, voilà, ils se rencontrent à l'église pour servir Dieu, même dans la communion fraternelle, vous servez Dieu. Vous voyez ? Donc, il y a la notion de servir Dieu et de pas de servir soi-même. Et c'est pour ça, Michel, souvent, vous le dit, aux jeunes en particulier, le dimanche, eh bien, arrêtez de travailler, sauf exception. Hein. Jésus lui-même dit, si un âne tombe, vous allez sortir le sabbat, c'est pas, vous n'êtes pas légaliste. Hein. Mais prenez l'habitude de mettre Dieu en avant. Parce que si vous avez un contrôle le lundi ou le mardi, etc., si vous avez mis Dieu en avant, Dieu va honorer votre foi. Et si vous travaillez comme des malades, à la limite, vous oubliez de lire un truc, et ça, vous l'aurez, vous ne serez pas béni. Alors, c'est vrai pour les jeunes, c'est vrai pour ceux qui travaillent. Je ne parle pas de ceux qui sont obligés de travailler dimanche, il y en a souvent beaucoup. Mais ceux qui ne le sont pas, mais mettez, servez le Seigneur le dimanche, le jour de repos. Et vous serez dans le repos. Et Dieu va multiplier tout ce que vous faites, parce que lui, il va honorer votre obéissance. L'aujourd'hui de Dieu, c'est aujourd'hui. Vous voyez, là, à l'instant où je vous parle, c'est aujourd'hui que vous pouvez faire quelque chose. C'est pas demain, c'est pas dans le passé, c'est aujourd'hui. Vous pouvez bénir les frères, vous pouvez écouter l'adoration, la louange, comme le Charles l'a dit, etc. Se réjouir dans sa présence, faire tout un tas de choses pour servir le Seigneur, servir l'Éternel de tout votre cœur. Et de vous laisser guérir du passé. Aussi, le repos, c'est aussi accepter d'être restauré, d'être guéri. Ça ne veut pas dire ne pas faire de projets. Hein. Moi, je fais beaucoup de projets, je suis quelqu'un qui projette les choses, etc. Mais Dieu va bénir les projets qu'on fait, parce qu'il y a des appels pour ceux qui font des projets. Mais au moment où vous le vivez, vous devez vivre le présent et laisser le Seigneur et bien assurer les projets. J'aime beaucoup Philippiens 2:12 et 13, hein, où il est dit « Travaillez votre salut ». À chaque fois, ça me choque. Ça choque la théologie du salut en disant « On n'a rien à faire, c'est le Seigneur qui a tout fait ». Et là, il dit « Travaillez votre salut ». C'est quoi ce truc-là? C'est à nouveau un paradoxe. Bon, « Travaillez votre salut ». Alors, il y a tout un tas de versions différentes de ce verset pour essayer de dire « mettez en œuvre votre salut », etc. Mais enfin, c'est toujours pareil, c'est qu'il y a quelque chose à faire aujourd'hui, travailler votre salut. Et le verset 13, donc il faut lire bien sûr la phrase, hein, « travaillez votre salut, car ». Alors, dès qu'il y a un « car », oula, ça va déjà moduler l'affirmation qui est précédente. C'est « car ». Car quoi ? Car c'est Dieu qui met en vous le vouloir et le faire. Vous voyez, car c'est Dieu. C'est-à-dire qu'il nous demande de faire des projets, de travailler, etc. Mais c'est le Seigneur qui va permettre que vos projets réussissent. S'ils viennent de lui, s'ils ne viennent pas de lui, laissez tomber. Vous êtes dans le repos. Vous n'êtes pas dans la crispation. Ne soyez pas crispés dans votre vie chrétienne. Mais dans la foi que Dieu vous conduit, que Dieu agit. Mais c'est l'aujourd'hui qui vous appartient. C'est ni le passé ni le futur. Donc, car c'est Dieu qui met en vous. C'est Dieu qui va vous aider, si c'est le projet de Dieu, à le faire aboutir. Donc tout vient de lui, mais aussi c'est nous qui mettons en route aujourd'hui. Et nous ne restons pas passifs. Vous savez, à l'époque des beatniks ou comment s'appellent les hippies, vous savez, je vais vous donner un petit scoop. Jean-Paul Englert était hippie aux États-Unis. Hein. Vous verriez ses photos, c'est incroyable. Une barbe comme ça, enfin, à l'époque, avec un chapeau machin de cow-boy. Et sa femme aussi. Et Gilles, j'ai appris qu'il était beatnik, pareil. Voilà. Vous ne croiriez pas aujourd'hui. Hippie, oui, beatnik, c'était, je crois, les Royaume-Uni qui étaient beatnik. Ouais. Peu importe, c'est pareil, c'était à l'époque où il était interdit d'interdire, on fait ce qu'on veut, on fait sauter tous les mœurs, etc. C'est la révolution des mœurs. Hein. Après la révolution française en 1789, c'est la plus grande révolution, c'était la révolution des mœurs. On fait sauter toute l'autorité, on fait ce qu'on veut, etc. On prend de la marijuana et on s'amuse et tout, voilà. Et ben, alors je ne sais plus ce que je voulais vous dire d'ailleurs. Oui, c'est converti. Ouais, mais je voulais dire autre chose, je ne sais plus. Ça m'a échappé. Bon, j'étais sur l'idée que, en fait, quand Dieu agit, il agit aujourd'hui. Et quand vous saisissez, quel que soit l'endroit où vous êtes, à un moment donné, que ce soit aussi la croix et le poignard avec Wilkerson, etc., quand vous saisissez l'aujourd'hui, vous pouvez changer. Du rien au tout, du noir au blanc. Vous voyez, Dieu change radicalement votre vie. Sauf qu'après, il faut persévérer. Il faut persévérer. Et justement, Aurèle Vidal disait, regardez leur fin. Et pour regarder leur fin, on voit s'ils appliquent l'aujourd'hui chaque jour. Parce que l'aujourd'hui, au moment où vous vous convertissez, c'est super. C'est super. Moi, que j'ai vécu l'aujourd'hui, c'est un peu comme Paul, quoi. J'ai vécu des choses qui m'ont dépassé. Mais l'aujourd'hui, chaque jour, c'est là qu'on voit les hommes et les femmes de Dieu. Où chaque jour, ils disent non à ma chair et oui à l'esprit. C'est un choix. Tous les jours, on a un choix à faire. Et c'est là qu'on voit comment on avance avec le Seigneur. Et c'est beaucoup plus dur que de mourir pour le Seigneur. Parce qu'une fois que vous êtes mort, c'est fini. Mais quand vous voulez vivre pour le Seigneur, ça veut dire que tous les jours, il faut que l'aujourd'hui de Dieu puisse être une réalité pour chacun de nous. Je vous invite à prier. Seigneur, veuille bénir vraiment chacun de nous, afin que nous puissions, Seigneur, refléter cette réalité de l'aujourd'hui de Dieu pour moi. Que tu bénisses mes bien-aimés aussi qui sont ici, qui sont tous, Seigneur, à des moments de leur vie où il y a des choix à faire, où il y a des décisions à prendre, Seigneur, qu'ils puissent le prendre aujourd'hui pour toi. Et que ce que tu leur dis, Seigneur, ils puissent dire oui. Parce que, Seigneur, le futur ne nous appartient pas, le passé non plus. Tu attends de nous que nous disions oui à ce que tu nous dis aujourd'hui. Seigneur, accorde-nous cette grâce de ne pas fuir devant quoi que ce soit, mais d'être présent à chaque moment où tu nous parles, afin que nous puissions te dire, oui Seigneur, je renonce à ma chair et je veux marcher selon ce que tu me montres maintenant. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.